CQFD.
Et maintenant, au Macamis, on va faire un gros plan sur l'alimentation. Déjà, ça c'est sympa, je trouve, oui. Mais on va faire un gros plan sur le rôle que cette alimentation joue sur notre évolution à nous humains.
Et oui, il y a 500 millions d'années, nos ancêtres sortaient de l'eau. Alors je vais vous passer quelques épisodes, hein, sinon ça va vous faire trop long. Mais on s'en doute, entre la sortie de l'eau, l'apparition des premiers hominidés et nous, Homo sapiens, notre alimentation a évolué. Alors jusque-là, pas de grande surprise, me direz-vous.
Que vous soyez sorti de l'eau, oui.
Quand même un peu. Non mais je suis pas très aquatique. Moi. Mais cela dit, l'adage dit que nous sommes ce que nous mangeons. Alors nos gènes, notre bagage génétique, est-il influencé par notre mode alimentaire? Étonnamment, il semble que oui, selon des travaux récemment réalisés par l'Université de Genève, par l'unité d'anthropologie, la domestication du feu a changé notre mode de vie. Et on ne sait pas exactement quand ça s'est produit. Hein. Le feu, c'était il y a quelque part entre 1,7 million d'années et 200 000 ans, selon les spécialistes.
La marge est large.
Assez grosse, on va dire. Toujours est-il que la cuisson des aliments a entraîné des modifications de notre génome même. En somme, nous avons évoluer et nous mangeons différemment, et parce que nous mangeons différemment, nous évoluons.
Eh bien, le rôle de notre alimentation dans notre évolution, et pour se pencher sur cette question fascinante, bonjour Christelle Vangenot.
Bonjour.
Vous êtes biologiste, informaticienne à l'unité d'anthropologie de l'Université de Genève, ainsi qu'enseignante au secondaire dans le canton de Vaud. C'est donc de vos travaux dont nous allons parler ce matin. Et à vos côtés, il y a Estella Polony, bonjour aussi.
Bonjour.
Vous êtes généticienne des populations, également à l'Université de Genève. Alors, Estella Polony, peut-être avant de se pencher sur le détail génétique, peut-être une question plus générale. Ouma a parlé de cuisson qui aurait joué un grand rôle. Hein. En quoi est-ce qu'elle a permis aux premiers humains d'évoluer?
Oui, alors on imagine, on sait même que cuire la nourriture peut apporter des bénéfices. Mais avant ça, par rapport à l'évolution, j'aimerais préciser deux choses. Les humains, comme tous les êtres vivants, évoluent continuellement. Hein. Et donc, ils évoluaient déjà avant de domestiquer le feu et avant de cuire les aliments. Et puis, j'aimerais aussi préciser que la domestication du feu a permis la cuisson de la nourriture chez nos ancêtres préhistoriques, hein, certainement, mais elle a aussi permis un certain nombre d'autres innovations, par exemple se chauffer et donc éventuellement permettre de s'établir dans des environnements plus froids, pouvoir se protéger des prédateurs, développer de nouvelles techniques de taille ou de façonnage de leurs outils, hein, leurs outils de chasse ou de tannage de peau, etc. Maintenant, quant à quels aspects de notre évolution peuvent être liés à la cuisson de la nourriture, là, je pense on peut y répondre pour l'heure de manière plutôt spéculative, en tout cas à ma connaissance. Les aliments cuits sont en général beaucoup plus facilement digestibles, digérés que les aliments crus. On peut aussi supposer éventuellement que l'utilisation du feu aurait pu entraîner une plus grande consommation de viande, donc de protéines animales, et donc un plus grand apport en calories. On peut aussi supposer que la cuisson des aliments permettait d'en éliminer les pathogènes, hein, les bactéries par exemple. Donc on n'a qu'à penser à la viande avariée. Et peut-être que la cuisson des aliments, elle facilitait aussi leur stockage. On pouvait peut-être plus facilement faire des réserves. Mais tout ça, encore une fois, ce sont des hypothèses. Parce que d'un autre côté, il y a des traditions alimentaires dans lesquelles on ne cuit que très peu. Ou pensez par exemple au régime alimentaire, à la diète des Inuits avant l'arrivée des Européens dans leur territoire. C'était un régime basé principalement sur des aliments crus.
Effectivement, mais c'est vrai que ça reste quand même quelques sociétés relativement isolées par rapport à, disons, à la majorité des sociétés humaines. Alors, vous nous avez expliqué tous les apports qu'a pu avoir la cuisson au niveau pratique, hein, au niveau physiologique aussi. Mais Christelle Vangenot, en fait, cette cuisson a aussi en quelque sorte modifier nos gènes. Vous avez d'ailleurs étudié des gènes en relation avec la cuisson.
Alors oui, les gènes que j'ai étudiés, donc c'est les gènes NAT, N-A-T, qui sont donc sur le chromosome 8. Et puis donc ces gènes, ils sont nécessaires pour détoxifier certains composés chimiques qui sont présents soit dans la nourriture, soit dans les médicaments, mais aussi dans la fumée, donc dans les fumées industrielles ou alors dans les fumées qui résultent de la matière vivante qu'on peut faire griller à haute température, donc par exemple les viandes ou les poissons. Donc ces composés chimiques, en fait, sont des toxines, et puis donc on les appelle des arylamines ou des amines hétérocycliques. Donc il y a deux gènes fonctionnels, NAT1 et NAT2, et puis un troisième gène, quoi, un pseudogène, donc qui s'appelle NATP. On dit un pseudogène parce qu'en fait, il ne sert à rien, il n'est plus fonctionnel.
Et vous avez regardé ces gènes en particulier ?
Oui, j'ai regardé donc ces gènes en particulier. Donc j'ai regardé NAT1, qui donc lui semble être plus nécessaire pour détoxifier les toxines qu'on produit nous-mêmes, donc notre organisme produit, alors que NAT2, lui, plus pour détoxifier les toxines qui viennent de l'extérieur, donc dans ce qu'on mange par exemple et dans ce qu'on respire.
Et la cuisson, quelle influence, entre guillemets, elle a eu sur ces gènes ?
Alors bah, justement, puisqu'effectivement, donc, ils sont nécessaires pour détoxifier des composés qu'on trouve dans la fumée, et en particulier dans la fumée quand on fait cuire des aliments, en étudiant ces gènes, on a pu imaginer que ça avait une influence sur leur évolution. En fait.
Donc vous avez étudié ces gènes, vous les avez comparés avec ceux des singes. Quels singes et pourquoi comparer avec ces mêmes gènes qui sont présents chez les singes ?
Alors oui, donc j'ai étudié ces gènes, moi, chez les grands singes. Donc, c'est-à-dire les chimpanzés, bonobos, gorilles et orang-outans, plus principalement chez les chimpanzés de l'Ouest, parce que c'est là où j'avais le plus d'échantillons de matériel génétique. J'ai comparé donc ces gènes chez les chimpanzés avec des échantillons de population humaine, donc on avait déjà à l'unité d'anthropologie, mais aussi en utilisant des données de bandes de données. Hein. Et puis pourquoi on a voulu comparer avec les chimpanzés ? Parce que donc, ces gènes, ils avaient déjà été pas mal étudiés dans les populations humaines. Et puis, on avait remarqué que dans les populations humaines, donc NAT1 avait très très peu de variations, donc il y avait peu de variants différents parmi les différentes populations, alors que NAT2, par contre, il y en avait beaucoup. Et puis, on espérait qu'en étudiant ces gènes chez les chimpanzés, bah, ça nous permettrait de comprendre pourquoi on avait cette différence. Et puis, donc les chimpanzés, bah, c'est nos plus proches parents, hein. Donc on a un ancêtre commun qui aurait existé il y a à peu près 7 millions d'années. Du point de vue génétique, on a un génome qui est similaire à plus de 96%. Et puis, ben, on savait déjà que pour les gènes NAT, parce qu'il y avait déjà eu une étude qui avait été faite, que ces gènes NAT étaient très similaires aussi entre les humains et les chimpanzés, puisqu'ils étaient à 98% similaires. Donc du coup, on espérait bien que cette comparaison ben, nous apporterait des informations sur ce qu'on voit chez l'humain. Et effectivement, ça nous a apporté des informations. On s'est rendu compte qu'il ben, y avait aussi de la diversité chez les chimpanzés, comme il y avait chez les humains. Cette diversité, on s'est rendu compte aussi qu'elle était différente. Donc, chez les humains, on avait vu qu'il y avait très peu de diversité à NAT1 et beaucoup à NAT2. Et chez les chimpanzés, ben, on a vu exactement l'inverse. Beaucoup de diversité à NAT1, 4 fois plus chez les chimpanzés que chez les humains. Et puis, à NAT2, on en a vu très peu chez les chimpanzés, donc entre 4 et 9 fois moins que chez les humains. Ça nous a confirmé qu'effectivement ces gènes, ils avaient une fonction différente chez les chimpanzés comme chez les humains. Et puis après, ben, on a aussi pu voir, effectivement, essayer d'étudier pour voir pourquoi on observait cette différence. Pour NAT1, chez les humains, les populations humaines, on a très peu de diversité. On a pu imaginer qu'il y avait une pression de sélection, donc quelque chose qui empêchait qu'on accumule de la variation chez les gènes, chez les humains, donc pour conserver sa forme. Puis pour NAT2, bah c'est plutôt chez les chimpanzés qu'on aurait cette pression qui empêcherait d'accumuler de la variation.
Donc c'est utile chez les humains parce qu'on cuit les aliments comparé à nos cousins qui ne cuisent pas leurs aliments, c'est ça ? Parce qu'en cuisant les aliments, on produit aussi des toxines dont il faut se débarrasser, j'imagine.
Et bah voilà, donc c'est une hypothèse qu'on a faite. Effectivement, comme ces gènes, en fait, ils interagissent à l'interface entre l'individu, donc l'humain ou le chimpanzé, et son environnement alimentaire et chimique, a priori, on n'avait pas le même environnement alimentaire et chimique que les chimpanzés. Et donc, ce serait cet environnement alimentaire et chimique qui était différent qui aurait fait que ces gènes auraient évolué de façon différente entre les deux espèces.
Donc on aurait évolué et puis on aurait gardé ce gène chez les humains Estella Polony. Ce serait en lien avec le feu ou avec l'agriculture ? Parce que l'autre différence quand même fondamentale avec le chimpanzé, c'est l'agriculture aussi.
Oui, alors en fait, il y a deux niveaux ou deux temps d'évolution différents qu'on a insérés. Il y avait ce qu'on savait déjà auparavant des populations humaines qui avait donné lieu à des hypothèses liées à l'adoption de l'agriculture, je vais y revenir. Et puis il y a ce deuxième, ce temps plus ancien d'évolution qu'a évoqué Christelle, tel qu'il y aurait eu une évolution différenciée de ces gènes chez les chimpanzés et chez les humains, dû probablement à un régime alimentaire différent et ce qui caractérise, disons, de manière fondamentale le régime alimentaire humain, c'est la cuisson de la nourriture, hein, même si on a des contre-exemples. Donc, le feu, il a été domestiqué bien avant l'apparition de la domestication des plantes et des animaux, hein. On a d'abord été tous des chasseurs-cueilleurs bien avant qu'apparaissent l'agriculture et l'élevage, puisque ça, c'est des innovations récentes dans l'évolution humaine. Mais on pense que lié à ces innovations récentes, il y aurait eu ce deuxième temps d'évolution, en particulier du gène NAT2. L'observation a été que dans les populations dont le mode de subsistance est basé traditionnellement sur l'agriculture et l'élevage, on trouvait des variantes de ce gène NAT2 qui sont en quelque sorte plus lentes, moins efficaces à métaboliser les toxines que chez les populations de chasseurs-cueilleurs. Donc l'idée qui en a été déduite, c'est que le gène NAT2 serait devenu moins essentiel pour détoxifier les toxines que l'on pouvait trouver dans l'environnement chimique et donc dans l'alimentation. Il serait devenu moins essentiel dans les populations qui auraient adopté ce mode de vie basé sur l'agriculture et l'élevage, parce que les métaboliseurs lents, comme on les appelle, moins efficaces, sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus fréquents dans les populations qui pratiquent l'agriculture et l'élevage que dans les populations de chasseurs-cueilleurs. Avant cette innovation de la domestication des plantes et des animaux, toutes les populations humaines vivaient de la façon dont vivent les quelques populations de chasseurs actuelles qui existent encore dans quelques poches dans le monde.
Donc ce sont vraiment les tempos finalement d'évolution, hein, qui vous permettent de déterminer ce qui a évolué au cours du temps en fonction de quelle innovation entre le feu et l'agriculture. Est-ce que pour autant, Estella Polony, on peut qualifier ces gènes de gènes de la cuisson?
Bon, non, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est des gènes de la cuisson. Nous, on a fait l'hypothèse que leur évolution différenciée chez les humains est liée à l'adoption de la cuisson parce que, comme le disait Christelle, ces gènes sont impliqués dans des réactions de détoxification de molécules qui sont produites lorsqu'on cuit des aliments. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce lien avec le feu et la cuisson. Maintenant, de dire que c'est des gènes de la cuisson, ça, c'est peut-être un petit peu
un raccourci
journalistique. Mais c'est clair que ce sont des gènes dont la fonction est liée à notre alimentation, bien évidemment.
Et qui nous arrange bien. Donc, cette cuisson, elle a permis de sélectionner certains gènes qui sont plus présents dans nos populations. Est-ce que d'autres habitudes alimentaires ont joué ce rôle dans l'évolution en tant qu'espèce humaine ?
Certainement que d'autres gènes ont aussi évolué en fonction des changements et des innovations dans notre façon de vivre, encore une fois, dans notre environnement chimique et alimentaire. Mais bon, on est loin de tout connaître. Et puis, je suis pas sûre que ça s'applique à chaque fois à toute l'espèce humaine. Hein. Ça peut peut-être s'appliquer à certaines populations et pas à d'autres. Et il y a un exemple très connu de cela, c'est l'exemple de la lactase. Hein. C'est un exemple assez bien documenté. Vous savez qu'il y a des traditions alimentaires dans lesquelles on consomme pas du tout de lait, pas du tout de lait frais, et d'autres traditions alimentaires dans lesquelles, au contraire, on consomme beaucoup de lait frais, comme par exemple, je crois, dans les pays scandinaves. Pour consommer du lait frais quand on est un adulte, bah, il faut des animaux qu'on puisse traire, il faut du lait. Et en fait, on a constaté que dans les régions du monde où on a adopté comme mode de subsistance l'élevage d'animaux qu'on peut traire, hein, des vaches, des chamelles, etc., on a observé que les adultes pouvant bien digérer le lait frais sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus fréquents que dans les régions ou dans les populations qui ont adopté un autre mode de subsistance. Hein, par exemple, qui ont adopté un mode de subsistance basé principalement sur l'agriculture ou sur la consommation d'autres aliments. Donc, dans certaines régions du monde le lait est devenu, au cours de notre préhistoire récente, un aliment très important dans la diète. Et c'est justement dans ces régions ou dans ces populations qu'on a découvert des variants génétiques qui permettent à l'adulte de bien digérer le lait frais. Mmh. Donc ces variants, c'est des mutations qu'on appelle lactase persistante ou variant lactase persistant, parce que leur effet, c'est de justement permettre à l'organisme de continuer à produire une enzyme essentielle pour digérer le lait, qui s'appelle la lactase. Mmh. Donc les gens porteurs de ces mutations sont dits tolérants au lactose. Et les individus qui portent pas ces variantes lactase persistante, bah, ils arrêtent, ils cessent petit à petit. Après le sévrage du lait maternel, ils arrêtent de produire cette enzyme lactase. Et donc, ils ne digèrent plus bien le lait frais lorsqu'ils sont adultes.
Alors, on sait qu'il y a notamment des Asiatiques hein, qui ont encore plus de peine que nous à supporter le lait. Mais est-ce que le fait d'être lactase persistant, finalement, alors c'est des mutations, d'accord, mais est-ce que c'est un avantage sélectif ou pas ?
Alors, ça a été certainement un avantage sélectif par le passé. Aujourd'hui, je dirais que c'est beaucoup plus relatif. Si vous êtes lactase non persistante, donc que vous ne portez pas ces mutations et que vous consommez du lait frais, ben vous pouvez avoir des problèmes digestifs assez conséquents. Hein. Ça peut aller jusqu'à une diarrhée persistante et ça peut être dangereux même. Hein. On peut mourir, par exemple, par déshydratation. Alors, par exemple, dans le sud de l'Éthiopie, notamment, bon, ça, c'est une région qu'on a un peu étudiée, qu'on connaît pour cette raison, il y a des populations qui vivent encore aujourd'hui principalement de l'élevage de vaches, comme les Nyangatom. Et dans ces populations, durant une période de l'année, les jeunes garçons, les jeunes hommes partent du village avec les troupeaux. Ils emmènent les troupeaux parfois à plusieurs jours de marche du village. Ils vont chercher des pâturages pour leurs animaux. Et donc, ils partent plusieurs semaines, hein, parfois jusqu'à 2 mois, je crois, 2 ou 3 mois. Et tout ce qu'ils vont manger pendant cette période où ils sont loin du village, c'est le lait qu'ils vont traire de leurs vaches une fois par jour. Donc, c'est tout ce qu'ils mangent. Donc, de temps en temps, quand la faim se fait trop sentir, ils peuvent entailler légèrement le cou d'une vache pour boire un petit peu de sang comme ça directement au cou, mais c'est vraiment de temps en temps. Sinon, le reste du temps, ils ne s'alimentent qu'avec le lait qu'ils ont pu traire. Imaginez que vous êtes dans cette situation et que vous ne digérez pas le lait frais, ben, vos chances de survie, elles sont
minces.
Franchement compromises. Hein, ouais, vous pouvez mourir de diarrhée, par exemple.
Ouais.
Et c'est exactement ça qu'on entend par... sélection naturelle, par pression de sélection. Ouais. C'est le fait d'avoir des chances de survie qui dépendent, dans un environnement donné, des variants génétiques que vous portez.
Ouais,
donc, si vous êtes lactase non persistant, vous êtes donc intolérant au lactose, eh bien, dans une situation comme celle de ces jeunes hommes de la population de Nyangatom, bah, vous risquez de mourir.
Ouais,
et donc de ne pas transmettre vos gènes.
Très bien, eh bien, merci beaucoup Estelle Apollonie. Je rappelle que vous êtes généticienne des populations à l'Université de Genève. Et merci aussi à Christelle Vongenot, un biologiste informaticienne à l'unité d'anthropologie de l'Université de Genève et aussi enseignante au secondaire dans le canton de Vaud. Vous avez répondu à l'invitation de Macamis. Je vous souhaite à toutes les deux une excellente suite de journée.
Au revoir, merci beaucoup.
Au revoir.
De 10h à 11h, CQFD.